France Culture.
Mais tout de suite, c'est le journal de la rédaction et on retrouve Mathilde Romagnan. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en direct de Kiev dans ce journal où de nombreux dirigeants européens viennent réaffirmer leur soutien à l'Ukraine 4 ans jour pour jour après l'invasion de ce pays par la Russie. Avec notre invité, nous nous demanderons comment se prépare-t-on à juger le crime d'agression russe avant même que le conflit ne se termine. L'Union européenne envisage de traduire la Russie en justice et nous verrons dans quel cadre avec Laurence Burgog-Larsen, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le journal également, plus de 600 migrants morts en Méditerranée depuis le début de l'année selon l'OIM. C'est à cause des mauvaises conditions météorologiques mais pas seulement. Et en France, un étudiant sur 3 est en situation de mal logement. Se loger pèse de plus en plus dans leur budget selon une étude d'un syndicat étudiant. Ce 24 février marque les 4 ans de la guerre en Ukraine. 4 ans que l'armée russe a envahi ce pays et que les combats durent. Les alliés de l'Ukraine sont nombreux à montrer de nouveau aujourd'hui leur soutien à Kiev. Selon Emmanuel Macron, par exemple, la Russie essuie un triple échec avec cette guerre. Échec sur les plans militaires, économiques et stratégiques, affirme le président français sur le réseau social X. Emmanuel Macron qui se dit aussi très sceptique sur la possibilité d'une paix à court terme. Théo Renaudot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kiev, place Maïdan, où de nombreux dirigeants européens sont réunis en ce moment pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine.
Oui, Volodymyr Zelensky, qui accueille notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue déposer une bougie ici à Maïdan, place de l'Indépendance, où se trouvent, vous le savez, ces dizaines, ces centaines même de drapeaux jaunes et bleus et de portraits de soldats tombés au combat. Après leur départ, la place a désormais été rouverte au public. Quelques Ukrainiens viennent rendre hommage à leurs morts, comme Max, venu s'agenouiller devant le portrait d'un militaire.
It's a sad day. I remember that 4 years ago I was
C'est un jour triste. Je me souviens qu'il y a 4 ans j'étais à Kiev. Et mon père est parti à la guerre. Et maintenant, voici sa photo.
Here's his photo.
Il était sergent dans l'unité d'assaut spécial Kraken. Souvenez-vous du prix de ce monde, du prix de votre paix. Souvenez-vous-en.
Voilà Max qui a tenu à s'adresser aux Européens, les derniers vrais alliés de l'Ukraine, selon lui.
Merci Théo Renaudon en direct de Kiev en Ukraine pour France Culture et RFI avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé tout à l'heure au Parlement européen dans une vidéo dans laquelle il appelle l'Union européenne à aller plus loin encore pour aider son pays.
Today. We must be just as determined.
Aujourd'hui, nous devons être déterminés et forts, exactement comme nous l'étions quand l'invasion a commencé.
It is important for us to receive a clear date for joining the EU.
Il est important pour nous d'avoir une date claire de notre accession à l'Union européenne. Et ce n'est pas un vœu en l'air, c'est comprendre comment Poutine agira. S'il n'y a pas de date, pas de garantie claire, il trouvera le moyen de bloquer l'adhésion de l'Ukraine pour des décennies en divisant l'Europe. S'il vous plaît, continuez à défendre le mode de vie européen. S'il vous plaît, soutenez l'Ukraine. S'il vous plaît, soutenez notre diplomatie pour la paix. Merci pour toutes ces années.
Slava Ukraini. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En Ukraine, la bataille se joue aussi dans l'espace, alors que Starlink a coupé son accès aux terminaux utilisés par les Russes et que le brouillage électronique est devenu une arme à part entière. De nouvelles tactiques émergent pour contourner ces blocages. Nos envoyés spéciaux en Ukraine, Claude Guibal, Marc Garvenès et Yarchar Fazilov, ont recueilli les craintes d'un soldat basé à Izium, au nord-est du pays.
Il est planté dans la neige comme insensible au froid. On est à Izium, la porte du Donbass, et pendant qu'on lui parle, on entend régulièrement les explosions.
C'est quelque part dans le coin.
Il donne son nom de code, Wi-Fi, il est artilleur. Pour lui, dit-il, ce qui devient désormais très dangereux, ce sont les trajets qu'il faut faire pour rejoindre sa position de combat. Sa hantise porte un nom, l'Ijdoun.
Le drone Jdoun, il s'installe au bord de la route, il a une fibre optique et il attend. Nous, une fois, on avait quitté notre position et on en a aperçu un posé sur le bas-côté. On a sauté hors de la voiture, on a vidé nos chargeurs sur lui, il n'a pas eu le temps de nous attaquer. Un deuxième drone a vu ça et s'est dirigé vers nous. Heureusement, lui a été pris dans le filet anti-drone et il a explosé. un bon gros coup d'adrénaline.
Ces fameuses drones, ce sont des drones d'attaque reliés à leur opérateur grâce à des fibres optiques fines comme des cheveux, longues parfois de 30 km. Un système filaire qui les rend totalement insensibles au brouillage. Contre les drones, le blocage de Starlink ne sert à rien. Une arme redoutable.
Reportage de Claude Guibal, Marc Garvenès et Yachar Fazilov, envoyés spéciaux en Ukraine. 4 ans après cette invasion par la Russie de l'Ukraine, comment se prépare-t-on à juger le crime d'agression russe? C'est la question qu'on se pose avec vous à 12h35. Laurence Burgorg-Larsen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors, le 25 juin dernier, le Conseil de l'Europe et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont signé un accord entérinant la création d'un tribunal spécial pour juger ce crime d'agression. Pouvez-vous nous expliquer rapidement sur le plan juridique ce que c'est exactement que ce crime d'agression dont s'occupera ce tribunal et pourquoi a-t-on décidé de créer une institution ad hoc pour le juger?
Oui, merci encore de votre invitation et de vos questions. Le crime d'agression est un crime qui part du principe qu'un État souverain viole le territoire d'un autre État souverain. Et c'est ce qu'a fait la Russie le 24 février 2022 en envahissant le territoire ukrainien contre toutes les règles tant de droit positif consacré par des traités, mais aussi des règles de droit coutumier qui interdit de telles manœuvres. Alors, pourquoi le Conseil de l'Europe s'est emparé de la question? Bien, tout d'abord parce que l'Ukraine et son président a instamment demandé l'établissement de ce tribunal spécial pour juger spécifiquement de ce crime d'agression qui ne peut pas, en l'état actuel du droit international, véritablement être jugé par la Cour pénale internationale qui a son siège à l'AE.
Pourquoi?
Exactement, c'est ce que beaucoup d'observateurs se posent comme question. Parce que la Cour pénale internationale ne peut exercer sa compétence sur le crime d'agression que si l'État agresseur et l'État victime sont tous les deux partis au statut de Rome. Ou, il y a une autre variante, si le Conseil de sécurité des Nations Unies renvoie la situation à la Cour pénale internationale. Sur le premier point, on a déjà une difficulté car la Russie n'est pas un État parti au statut ayant créé la Cour pénale internationale. Et sur le second point, le Conseil de sécurité ne pourra, selon toute vraisemblance, jamais renvoyer cette question du crime d'agression à la Cour car la Russie est un des membres permanents du Conseil de sécurité et évidemment objectera immédiatement son veto, présentera immédiatement son veto. Voilà pourquoi la grande juridiction pénale internationale établie en 88 par le statut de Rome, là, est inefficace, inopérante. Et c'est dans ce contexte très singulier que le crime d'agression a été jugé pertinent à être traité dans le cadre du Conseil de l'Europe par un accord ad hoc, un accord spécifique signé entre l'Ukraine et le Conseil de l'Europe.
Maintenant que le contexte est posé, Laurence Burgorg-Larsen, fin janvier, une équipe préparatoire a été mise en place pour jeter les bases institutionnelles et logistiques de ce tribunal. Très concrètement, quelles décisions cette équipe préparatoire sera amenée à prendre?
Alors là, il s'agit effectivement de la mise en opération, de la mise en œuvre effective de cette juridiction. Il va déjà falloir organiser financièrement et judiciairement et administrativement la structure. On sait qu'à cet égard, l'Union européenne, qui est le bailleur de fonds de cet accord, a débloqué 10 milliards d'euros et donc apporte son soutien politique et institutionnel à la mise en place effective de ce tribunal. Donc, les premières décisions vont constituer à le mettre en place, à créer, à opérer des choix techniques et opérationnels, à mettre en place ce qu'on appelle un règlement de procédure et de preuve, établir toutes les règles d'indépendance, d'équité, d'impartialité du tribunal, sélectionner les juges aussi, sélectionner des candidats qui, au regard de leur expérience des crimes de masse, au regard d'un équilibre géographique qu'il faudra trouver pour que les différentes cultures juridiques soient représentées au sein du tribunal. Tout ceci doit être très finement pensé pour qu'ensuite, quand les poursuites vont être activées, les règles de droit vont être opérationnelles, bien présentées. Il faut aussi penser à l'organisation administrative du tribunal. Choisir un greffe, recruter du personnel, des avocats, des juristes qui vont tous travailler d'arrache-pied pour donner vie. Donc en fait, avant même de penser aux éventuelles démarches judiciaires, c'est toute l'architecture d'une juridiction internationale qu'il va falloir mettre en place. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que les choix qui vont être décidés en termes de procédure, common law, droit civil, quel sera l'équilibre qui va être trouvé entre ces deux grandes cultures juridiques, par exemple, quelles sont les modalités d'audition des témoins, quelles sont les règles en matière d'impartialité des juges, du procureur. Ce seront donc les prochaines démarches très importantes qui seront mises en place.
Merci pour toutes ces explications, Laurence Burgog-Larsen. Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et merci aussi à Aloïs Guérin d'avoir préparé cette interview.
Jean-Noël Barrot demande des explications aux États-Unis.
Après la non-présentation hier soir de l'ambassadeur américain à une convocation du Quai d'Orsay à Paris, le ministre français des Affaires étrangères a exigé la venue de Charles Kochner après son commentaire sur la mort du militant identitaire Quentin Derenck à Lyon. Convocation que l'ambassadeur américain n'a pas honorée. Punition de la France, Charles Kochner ne peut plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Cette attitude de l'ambassadeur américain, c'est en fait le reflet de la méthode diplomatique musclé de Donald Trump et qui n'est pas spécifique à la France. Frédéric Saïs, il y a eu des démêlés similaires dans l'Union européenne ?
Oui, en Pologne, l'ambassadeur américain a coupé tout contact avec le président de l'Assemblée nationale polonaise. Ce dernier s'était dit sceptique sur l'idée que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix. Visiblement, un crime de lèse-majesté. Crise diplomatique également. En Belgique, l'ambassadeur américain a accusé publiquement l'État belge de favoriser l'antisémitisme. Le Premier ministre Bart De Wever a protesté et son ministre des Affaires étrangères a convoqué l'émissaire américain en fin de matinée aujourd'hui, convocation à laquelle il s'est rendu. Ces accrochages traduisent la diplomatie trumpiste sur la forme une franchise décomplexée à la limite de l'impolitesse. Sur le fond, America first, l'Amérique d'abord. Les ambassadeurs nommés par Donald Trump ne sont pas issus du corps diplomatique. En Pologne et en Grèce, ce sont d'anciens présentateurs télé. En Belgique et en France, des hommes d'affaires qui préfèrent visiblement mettre de l'huile sur le feu plutôt que dans les rouages diplomatiques.
Frédéric Saïs, rédaction internationale de Radio France. Les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par Donald Trump sont entrés en vigueur cette nuit. Le président américain a décidé de cette nouvelle surtaxe pour remplacer les droits de douane existants et ceux prévus dans les différents accords commerciaux signés récemment et que la Cour suprême a invalidé vendredi dernier. Plus de 600 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. Au moins 606 migrants selon l'Organisation internationale des migrations. C'est le début d'année le plus meurtrier depuis que l'OIM a commencé à collecter ces données, soit depuis 2014. Bonjour, Tara Schlegel.
Bonjour.
Ces 600 morts s'expliquent en partie par des conditions météorologiques très dégradées en ce début d'année.
Avec la tempête Harry autour du 20 janvier et ses vagues de 16 mètres de haut, les embarcations de fortune qu'empruntent les migrants depuis la Tunisie et la Libye surtout n'ont pas résisté. Une ONG italienne, Mediterranee Saving Humans, a même parlé de plus de 1000 noyés pendant ce cyclone, bien au-delà des chiffres de l'OIM que vous citiez, Mathilde. En tout cas, la Méditerranée est toujours plus meurtrière, en raison donc des tempêtes, mais aussi de l'activité débordante des gardes-côtes libyens, qui sont passés de 17 000 interceptions en 2023 à 27 000 l'an dernier. À la demande des pays européens, ils ramènent les embarcations vers la Libye, où les migrants sont alors retenus dans des conditions épouvantables. On parle d'esclavage, de tabassage, de traite d'êtres humains, ce qui encourage ceux qui veulent quand même traverser à prendre des routes toujours plus éloignées et périlleuses. À quoi s'ajoutent des décrets pris il y a 3 ans par l'Italie, décret Piante Dosi, du nom du ministre de l'Intérieur, qui entrave le travail des navires des ONG qui sont chargés de sauver les naufragés. Interdiction de mener plus d'un sauvetage à la fois en Méditerranée. Il faut que les survivants débarquent très vite, même s'il y a un autre canot dans la même zone, et souvent dans des ports éloignés du nord de l'Italie, ce qui coûte du fioul, du temps et donc des vies humaines.
Explication en direct de Tara Schlegel, merci à vous. Le footballeur marocain Achraf Hakimi, joueur du PSG, est renvoyé en procès pour viol après la plainte d'une femme pour des faits remontant à février 2023. Décision aujourd'hui du parquet de Nanterre. J'attends avec calme ce procès, a déclaré le joueur de 27 ans.
Midi 44 sur France Culture. En France, près d'un quart des étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois une fois leur loyer payé.
C'est ce que montre une enquête du syndicat étudiant Lafage, la Fédération des associations générales étudiantes. Preuve, selon elle, de la précarité des étudiants en augmentation et dégradant aussi leur santé et affectant leurs résultats académiques. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Mathilde.
Hakim, c'est surtout le logement qui pèse dans le budget des étudiants.
Oui, le loyer représente en moyenne plus de la moyenne du budget des étudiants. En moyenne, il est en région de 491 euros contre 712 à Paris. Des prix qui s'expliquent en grande partie par le manque de logements étudiants. En effet, ceux proposés par le CROUS ne représentent que 8% du parc. Emmanuel Macron avait promis, lors de son arrivée au pouvoir en 2017, la construction de 60 000 logements étudiants. Sauf qu'aujourd'hui, seule la moitié ont été véritablement réalisés, regrette Suzanne Nijdam, la présidente de Lafage.
Là, avec un étudiant sur 5 qui a moins de 100 euros après avoir payé son loyer et plus largement la moitié des étudiants qui se retrouvent avec moins de 200 euros après avoir payé leur loyer, on fait vraiment face à un sous-financement étatique et qui montre qu'on a un vrai problème sur le nombre de logements sociaux et donc le privé qui en profite et qui prolifère là-dessus en abusant sur à la fois les droits et les finances des étudiants.
En attendant, les étudiants doivent donc se retourner vers le privé, qui est beaucoup plus cher et pas toujours en très bon état, dans 30% des cas, avec par exemple des problèmes de moisissure, d'humidité ou encore de connexion Internet, indique l'étude du syndicat, qui réclame également une réforme des bourses afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires pour passer de 750 000 à 1 million d'étudiants.
Merci Hakim Kasmi. Chine annonce l'ouverture de ses 5 boutiques hors de Paris dès demain, 3 mois après celle de la capitale. Les produits du géant chinois de la mode ultra éphémère seront en vente dans les BHV de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims.
Les médias traditionnels excluent d'une conférence de presse donnée par Mélenchon.
Hier, le leader de la France insoumise a pris la parole à Paris lors d'une conférence intitulée Jean-Luc Mélenchon face aux nouveaux médias. Sous pression depuis la mort du militant identitaire Quentin Derenck, alors que des proches du député LFI Raphaël Arnaud figurent parmi les personnes interpellées ou mises en examen, Jean-Luc Mélenchon a renouvelé son soutien à son député. Au mouvement antifasciste dissous la Jeune Garde. Il est surtout revenu longuement sur le traitement médiatique de la France insoumise, Pierre Ropert.
Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agissait avant tout d'une rencontre avec les nouveaux médias, exit donc les médias traditionnels comme Le Monde, Libération, Radio France ou encore L'Humanité par exemple. Seuls des médias en ligne étaient conviés comme Blast, Mediapart ou Reporter. « Je n'ai pas de problème avec les médias, ce sont les médias qui ont un problème avec moi », a assuré Jean-Luc Mélenchon avant de dénoncer le traitement de la France insoumise depuis la mort du jeune militant nationaliste Quentin Derenck. Il a notamment accusé les médias traditionnels d'être devenus des protagonistes directs de la montée de l'extrême droite. S'il a estimé à plusieurs reprises ne pas avoir une attitude anti-média, le leader de la France insoumise n'en a pas moins rappelé qu'il refusait d'inviter les deux journalistes auteurs du livre La Meute, déjà exclus fin août de l'université d'été de la France insoumise. L'idée de cette conférence donc était de s'adresser à d'autres médias que ceux qui sont, je cite, à 90% d'entre eux entre les mains de milliardaires. Il existe une autre sphère, a précisé Jean-Luc Mélenchon, qui représente des millions de personnes. S'adresser en priorité à ces médias soigneusement sélectionnés, c'est peut-être surtout pour la France insoumise un moyen de s'adresser à une audience un peu plus favorable à son programme, alors que se dessine la perspective de la campagne présidentielle. De son côté, le syndicat des journalistes a publié dès hier un communiqué dans lequel il explique qu'il est inquiétant d'essayer de placer chaque journaliste dans un camp, celui des bons ou celui des mauvais.
Pierre Ropert, les obsèques de Quentin Derenck seront célébrées aujourd'hui dans l'intimité familiale, 10 jours après la mort de ce militant identitaire de 23 ans. L'examen du projet de loi sur la fin de vie prend plus de temps que prévu. Un vote solennel devait avoir lieu ce soir. Il aura lieu demain, après-midi finalement. Décision ce matin de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Il reste encore de nombreux amendements à examiner autour des critères encadrant l'euthanasie ou encore sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Et dans la foulée, demain aura lieu aussi l'examen des deux motions de censure de LFI et RN sur la programmation pluriannuelle de l'énergie.